Dans le cadre de notre série sur les chercheurs, je reçois aujourd'hui Mme Louise Lemire. Elle est professeure titulaire à l'École de psychologie, membre de la chaire de recherche McLaughlin sur les aspects psychosociaux du risque et de la santé à l'Institut de recherche en santé des populations de l'Université d'Ottawa, où elle dirige d'ailleurs une unité de recherche sur l'analyse psychosociale de la santé, GAP Santé. Ses recherches portent, entre autres, sur les aspects psychosociaux du stress et de la santé, de stress social et de la santé des populations. Madame Lemire, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'abord brièvement de la chaire de Samuel McLaughlin, qui a été créée en 2002, cette chaire.
Exactement. Voilà. Donc, par la Fondation Samuel McLaughlin, un constructeur automobile d'Ontario, et qui a voulu soutenir la recherche en santé dans une perspective nouvelle, interdisciplinaire, donc centrée sur l'environnement, et auquel maintenant j'ajoute un volet psychosocial grâce à la chaire.
Donc des mots qui nous interpellent, hein, tous, stress, santé, stress social, santé des populations, je vous dirais par où commencer, peut-être parler en gros de la psychologie sociale.
Hein. Oui, d'abord c'est intéressant, la psychologie sociale est une branche de la psychologie qui s'intéresse au fonctionnement normal. Les gens connaissent plus la psychologie clinique, ouais, qui porte sur la détresse, les cas pathologiques, les troubles. La psychologie sociale, c'est comprendre le fonctionnement des individus, des groupes, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent.
Leur comportement
et comment on peut l'améliorer. Donc, c'est comme une vue positive de la contribution du fonctionnement des humains en société.
Ouais. Ben, quant au stress, ben là, hein, le stress, il habite tous et chacun.
Ouais, le stress
c'est inévitable.
Effectivement, le stress fait partie de la vie.
Ouais.
Et dans ce sens-là, le stress, on a tendance souvent à en parler de façon plus négative, mais en fait, c'est un état de tension, de mobilisation par rapport à de l'adaptation à des demandes.
Mm-hmm.
Et donc, il y a des facteurs positifs. Et on peut chercher à savoir quels sont les facteurs qui favorisent une meilleure adaptation et comment on peut intervenir pour favoriser une adaptation plus grande. Parce qu'en soi, le stress n'est pas nécessairement nocif. C'est quand il est trop élevé ou soutenu sur une période trop longue, sans répit, qu'il devient négatif.
Oui, parce qu'il peut l'être, il peut être positif.
Il peut tout à fait être positif, ouais. C'est une mobilisation.
Ouais.
Et il met en jeu à la fois une activation physiologique, les, ouais, hormones, le système immunitaire, et à la fois une mobilisation psychique ou psychologique, un mode de résolution de problèmes. Et donc, on peut essayer de voir comment, d'une part, détecter si les gens sont trop stressés trop longtemps, que ça devient nocif et débilitant, ou comment on peut modifier l'environnement physique ou social, mm-hmm, pour favoriser une meilleure santé.
Ouais. Évidemment, vous avez étudié le processus. Quels sont les facteurs qui augmentent le stress? Quels sont les facteurs qui nous protègent?
Les trois grands facteurs de stress et donc d'intervention, d'une part, c'est la sévérité. C'est bien sûr qu'il y a une trame contextuelle, il y a une réalité, il y a, ouais, de l'adversité. Il y a aussi la signification qu'on accorde à ces événements-là, comment ils se situent dans nos trajectoires de vie. Les deux autres facteurs sur lesquels même on a plus d'impact, c'est celui du sentiment de contrôle, le sentiment de maîtrise, et troisièmement, l'incertitude.
Ouais.
Donc, comme intervention, c'est donc comment on peut habiliter les gens, comment,
ouais,
on peut leur donner soit des trucs...
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir?
Pour prévenir des habiletés, apprendre la résolution de conflits, apprendre la demande d'aide,
mm-hmm,
comment entretenir un minimum de réseau social autour de nous, donc le rôle du soutien social, savoir identifier les gens qui nous donneront soit de l'information, soit de l'écoute. Et dans l'incertitude, c'est jouer sur l'information. Comment, même quand on ne sait pas tout, quand les choses sont imprévisibles, déjà donner des bribes d'informations qui peuvent diminuer la partie du stress qui n'est pas nécessaire. Mmh. Et ça, ça a des répercussions beaucoup dans le monde organisationnel.
Oui, bien, j'entendais parler de résolution de conflits. Les supérieurs, les patrons dans les grandes entreprises, dès leur nomination, dès leur entrée en fonction dans un poste dit cadre, mmh, sont appelés immédiatement à étudier, à voir comment on passe à la résolution de conflits. Ça, c'est, ça,
oui,
fait partie intégrale.
Ça fait partie d'une habileté, ouais, qui est... du genre d'habileté générique qui est utile au travail, qui est utile dans le milieu familial,
absolument,
qui est utile à l'école.
Oh oui.
Et donc, on peut même avoir des programmes de prévention auprès des jeunes, chez les enfants, pour apprendre à faire de la conciliation, comment identifier, ouais, les problèmes, etc. Donc, on s'intéresse à ces questions-là. En milieu organisationnel, effectivement, et même dans une perspective non seulement individuelle du stress des travailleurs, mais aussi du stress des organisations. Donc, comment on peut rendre les organisations plus efficaces ou plus apprenantes. Notamment, ouais, nous, on a fait beaucoup de travaux auprès des cadres supérieurs dans la fonction publique fédérale. Donc, ici, à Ottawa, c'est très pertinent.
Ouais.
Un suivi à long terme, autant pour la santé des individus, leur santé physique, leur santé mentale, que la santé de l'organisation comme telle. Donc, on amène le concept à un niveau collectif. Quels sont les événements ou les changements dans l'organisation qui sont favorables à un développement ou une productivité supérieure? Un des grands facteurs, c'est la place à la participation, à l'engagement. Et ça, on l'étudie à la fois en milieu organisationnel et aussi en milieu communautaire. Combien, dès qu'on permet aux gens de s'engager tôt dans le processus de consultation, dans le processus de résolution de problèmes, dès qu'ils participent et s'engagent en meilleur état de santé mentale et physique et d'adaptation, dont ils peuvent bénéficier. Et donc, on le voit en milieu organisationnel, on le voit en milieu civique, public.
Absolument.
C'est les mêmes facteurs qu'on retrouve dans la gestion de risque,
ouais,
qui là aussi regroupe l'organisationnel. On dit dans la vie, le stress est partout. Les risques sont partout aussi.
Ouais. Et ça m'amène à parler de la santé des populations parce que vous observez énormément, ça fait partie de vos recherches. Donc, tout ça, ça s'entrecroise quelque part.
Exactement. Hein? Tout à fait. Donc, c'est d'amener les perspectives. La psychologie, initialement, était une science plus individuelle et c'est de la rendre plus générique, plus systémique, plus large, qui nous amène à la santé des populations, qui est comme une compréhension ou une conception plus globale de la santé. Donc, être en santé, c'est pas juste pas avoir de bobos.
Non.
C'est d'être capable de fonctionner. Fonctionner comme individu, mais fonctionner aussi comme société, comme collectivité. C'est même la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est la santé, c'est le plein développement de son potentiel. Oui, merci. Et c'est donc dans ce cadre-là plus large qui dit ben le bon fonctionnement humain, il repose sur 5 piliers. Oui, la biologie, la génétique, la physiologie, oui, c'est important. L'environnement physique, donc la pollution,
ouais,
les risques de désastres naturels, par exemple. Les services de santé, la médecine, les comportements de l'individu, les habitudes de vie, tabagisme ou exercice physique, mais aussi sur les ressources sociales, sur le contexte social. Donc, on sait qu'un des grands facteurs négatifs de vulnérabilité pour la santé, par exemple, c'est la pauvreté, ou c'est le manque de réseau social. Et l'intégration de la psychologie sociale me permet de venir, d'une part, alimenter les connaissances directement là-dessus, et aussi de les mettre en interaction avec les autres facteurs. Et c'est là où la chaire et l'Institut de santé des populations, l'Université d'Ottawa, sont d'un grand avantage pour les connaissances parce qu'on travaille de façon interdisciplinaire.
Ouais.
Et donc, c'est de combiner. C'est comme santé des populations, c'est la santé au-delà de la médecine, ou y compris la médecine, mais dans même la planification urbaine.
Ouais.
En quoi avoir des pistes cyclables, en quoi avoir une patinoire sur le canal, qui sont des sports accessibles à tout le monde, donc qui réduisent les inéquités,
ouais,
mais qui permettent d'être en forme, qui combattent l'obésité.
Combattent
le stress, effectivement. Et donc, l'ensemble de tous ces facteurs-là, pour enfin le but ultime d'avoir une meilleure société.
Le temps file, je veux qu'on parle quand même de gestion de risque parce que ça vous interpelle beaucoup, vous avez beaucoup observé. Vous avez parlé tout à l'heure de désastres naturels, on pourrait parler de pandémie, mais aussi de terrorisme, tout ça fait partie de vos recherches.
Effectivement, j'ai le plaisir de travailler dans un contexte donc très appliqué, très utile et très contemporain, qui a débuté par la crise du 11 septembre et la mobilisation du gouvernement, à la fois fédéral, provincial, etc., pour améliorer la gestion ou la planification des risques terroristes, mais des autres types, on s'est rapidement réalisé qu'il fallait généraliser à toutes sortes de types d'adversités parce qu'il y a des risques qui sont soit imprévisibles ou incontrôlables. Et quelle est la place à la fois des facteurs humains et des facteurs sociaux? C'est ce que j'apporte dans le cadre de ces travaux-là. J'ai la chance d'avoir un financement important qui vient de l'IRTC, qui est donc une nouvelle agence sur les sciences de la sécurité fédérale, qui est un consortium de 21 ministères qui m'amène à travailler en intersectoriel, à la fois avec les différents paliers de gouvernement, avec les organismes communautaires et avec le secteur privé, pour identifier tous les points d'intervention avant, pendant ou après une crise majeure où on a besoin des ressources sociales. Donc, ça veut dire à la fois faire des planifications, imaginer des scénarios, équiper les travailleurs des urgences, mais équiper les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information? Je parlais tout à l'heure de l'eau, les batteries, la liste de contacts. Comment, sur le plan organisationnel, s'assurer que nos employés vont être là, ceux qui sont des services essentiels. Notamment, on a fait une étude, par exemple, sur les infirmières suite au SRAS. Comment on va s'assurer qu'elles reviennent au travail? Comment protéger leur famille? Et comment on va faire le relais entre les employés s'il faut maintenir des services d'urgence sur une longue période? Et ensuite, même après, comment on assure la rémission des gens? Comment les gens recouvre d'événements comme ça et quelles sont les mythes qui font combattre. Donc, on regarde, par exemple, après le 11 septembre, on s'est rendu compte quand même que la majorité des gens sont plus résilients que ce qu'on pense. Sur 6 mois, la majorité des gens, c'est un trauma réel.
Absolument.
Mais les gens récupèrent mieux qu'on pense et ensuite, il faut identifier la part des gens qui, eux, ont eu plus de difficultés, 10 à 20 et là, offrir des services professionnels. Mais sur le 80, quelles sont les façons de s'assurer qu'ils récupèrent un peu plus rapidement et quelle est la régénération spontanée des groupes?
C'est fort intéressant. D'ailleurs, vous dirigez ce qu'on appelle le GAP Santé, le groupe sur les aspects psychosociaux de la santé. Et puis, il y a énormément d'informations sur vos recherches. On n'a qu'à taper dans le moteur de recherche GAP Santé.
Oui, et puis gapsanté.uottawa.ca. Ouais. Et on peut voir là des résumés de certains de nos travaux et les collaborations qu'on établit dans tout le réseau de la recherche.
Bien, merci beaucoup, Mme Lemire.
Un plaisir.
Alors, je recevais Mme Louise Lemire, professeure titulaire à l'École de psychologie, membre de cette chaire de recherche McLaughlin sur les aspects psychosociaux du risque et de la santé à l'Institut de recherche en santé des populations de l'Université d'Ottawa.